Second chapitre, l'art de conduire un âne. La cloche du monastier frappait 9 coups, au moment où, débarrassé de ses complications préalables, je descendais la colline à travers les terrains communaux. Tant que je fus en vue des fenêtres, une secrète honte et la crainte de quelque défaite ridicule me retinrent de prendre à partie Modestine. Elle allait, tranquille, du pas léger de ses 4 petits sabots, secouant de temps en temps la queue ou les oreilles, et elle semblait si menue sous son fardeau que j'en fus fâcheusement impressionné. Nous passâmes le gué sans difficulté. C'était à prévoir, car elle était la docilité même. Mais, une fois sur l'autre rive, la route commençant à monter à travers les bois de sapins, je pris dans ma main droite un bâton qui n'avait rien de sacré, et d'un cœur hésitant j'en appliquai un coup sur la croupe du baudet. Modestine pressa son allure l'espace de 3 pas, puis reprit son petit train-train habituel. Un second coup, puis un troisième, eurent exactement le même résultat. Je suis digne de mon nom d'anglais, et il est contraire à mes principes de porter la main sur un être du sexe féminin. Je m'arrêtai, et j'examinai Modestine de la tête aux pieds. Les genoux de la pauvre bête tremblaient, et sa respiration était oppressée. Il était évident qu'elle ne pouvait aller plus vite en gravissant une montagne. À Dieu ne plaise, pensais-je, que je brutalise cette innocente créature. Qu'elle aille tranquillement à son pas, je suivrai avec patience. Ce qu'était ce pas, il n'est pas de mots qui puissent l'exprimer. C'était quelque chose d'aussi lent par rapport à la marche que la marche par rapport à la course. Elle m'obligeait à traîner sur chaque pied pendant un temps interminable. En 5 minutes, j'étais à bout de force. Et j'avais la fièvre dans tous les muscles de la jambe. Et cependant, j'étais obligé de me tenir tout près de l'âne et de régler exactement mon allure sur la sienne, car si j'avais le malheur de rester quelques mètres en arrière ou d'aller quelques mètres en avant, Modestine s'arrêtait à l'instant et se mettait à brouter sur le bord de la route. La pensée qu'il en serait ainsi jusqu'à Alès me remplissait de désespoir. De tous les voyages imaginables, celui-ci promettait d'être le plus pénible. J'essayais de me dire que la journée était belle, j'essayais d'engourdir mes pressentiments avec le tabac. Mais j'avais toujours devant les yeux la vision d'une longue, longue route s'étendant par monts et par vaux, et celle de 2 êtres qui s'avançaient d'un mouvement imperceptible, pas à pas, 1 mètre à la minute, et, comme dans un cauchemar, n'approchaient jamais du but. À ce moment, arriva derrière nous un grand paysan d'environ 40 ans, l'air ironique, et vêtu de la redingote du pays. Il nous rattrapa à grands pas et s'arrêta pour mieux considérer notre marche pitoyable. « Votre âne est bien vieux, me dit-il. » Je lui dis que je ne croyais pas. Alors il demanda si nous venions de loin. Je lui répondis que nous venions de quitter le monastier. « Et vous marchez comme ça ? » s'écria-t-il. Puis, rejetant la tête en arrière, il se mit à rire longuement et de bon cœur. Je le regardai, prêt à me fâcher, jusqu'à ce que son accès d'hilarité fût passé. « Il ne faut avoir aucune pitié de ces bêtes-là, me dit-il. » Et coupant une tige d'un fourré, il commença à frapper Modestine sur l'arrière-train, en poussant un cri. La coquine dressa les oreilles et se mit à marcher d'un bon pas régulier qu'elle garda sans fléchir et sans manifester le moindre symptôme de fatigue, aussi longtemps que le paysan fut à côté de nous. Son tremblement et son halètement de tout à l'heure n'étaient, j'ai le regret de le dire, qu'une simple comédie. Avant de me quitter, mon Deus ex machina me munit d'un avis excellent mais inhumain. Il me légua la houssine, déclarant qu'elle y serait plus sensible qu'à mon bâton, et finalement, il m'enseigna le vrai cri, le mot maçonnique des âniers, prout. Ce faisant, il me regardait d'un air de scepticisme comique, qui ne laissait pas d'être assez humiliant pour moi. Il souriait de ma façon de conduire un âne, comme j'aurais souri moi-même de son orthographe ou de son rustique habit vert. Mais pour le moment, ce n'était pas mon tour. J'étais fier de ma nouvelle science, et je crus que je possédais cet art à la perfection. Il est certain que Modestine fit des merveilles pendant le reste de la matinée et me laissa le loisir de regarder autour de moi. C'était dimanche, les champs ensoleillés étaient déserts. Quand nous arrivâmes à Saint-Martin-de-Fugères, l'église était pleine jusqu'au porche et il y avait des gens à genoux sur les marches. De l'intérieur obscur, les chants du prêtre arrivaient jusqu'au dehors. J'avais presque la sensation de me retrouver chez moi. J'appartiens au pays du sabbat, si l'on peut dire, et pour moi, voir observer le jour du sabbat, c'est comme entendre l'accent écossais. J'éprouve toujours un sentiment confus où se mêlent l'attendrissement et l'ennui. Seul un voyageur habitué à se presser comme s'il venait d'une autre planète peut goûter la paix et la beauté de la grande fête ascétique. La vue de la campagne au repos lui rafraîchit l'âme. Il y a quelque chose de plus émouvant que la musique dans le vaste silence inaccoutumé. Il dispose aux pensées douces comme le murmure d'une rivière ou la chaleur du soleil. C'est dans cet aimable état d'esprit que je descendis jusqu'à Goudet, situé au fond d'une vallée verte en face du château de Beaufort qui s'élève sur une éminence rocheuse, séparée du village par un ruisseau clair comme le cristal, formant à cet endroit une sorte d'étang profond. En amont et en aval, on l'entend clapoter sur les pierres. C'est comme une rivière en miniature, et il semble absurde de l'appeler la Loire. Goudet est enfermé dans un cercle de montagnes. Seuls ces sentiers rocailleux, praticables tout au plus pour des ânes, le rattachent au reste de la France. Dans ce coin verdoyant, hommes et femmes boivent et jurent du seuil de leur maison. Ils contemplent en hiver les cimes couvertes de neige, dans une solitude qui pourrait faire penser d'abord à celle des cyclopes d'Homère. Pourtant, le facteur arrive à Goudet avec son sac de lettres. En un jour de marche, la jeunesse ambitieuse de l'endroit peut atteindre le chemin de fer du Puy. Et l'on voit à l'auberge un portrait gravé du neveu de l'hôte, Régis Sénac, professeur d'escrime et champion des deux Amériques. Une distinction gagnée par lui avec la somme de $500 à Tammany Hall, New York, le 10 avril 1876. J'expédiai mon repas de midi et repartis aussitôt. Mais, hélas, tandis que nous gravissions l'interminable pente de l'autre côté de la vallée, Prout semblait perdre sa vertu. Je proutais comme un lion, je proutais suavement avec la douceur de la colombe, mais Modestine ne se laissait ni intimider ni séduire. Elle gardait obstinément la même allure. Le bâton seul lui faisait hâter le pas, et encore pour une seconde. Il fallait que je fusse toujours sur ses talons, si j'ose dire, la harcelant, sans discontinuer. Un seul moment d'arrêt dans cette vile tâche, et elle reprenait son petit pas tranquille. Je n'ai jamais connu âme qui vive dans une situation aussi pénible. Je voulais arriver au lac du Bouchet, où je me proposais de camper, avant le coucher du soleil. Pour conserver un faible espoir d'y parvenir, il me fallait maltraiter à tout instant la pauvre bête résignée. Le cœur me manquait au bruit des coups que je lui administrais. Une fois, en la regardant, je lui trouvais un air de ressemblance avec une dame de mes amis qui m'avait autrefois comblé de ses bontés, et ma cruauté me fit encore plus horreur. Pour achever de gâter les affaires, nous rencontrâmes un autre âne qui gambadait en liberté sur le côté de la route. Ce Baudet se trouvait être un monsieur. Modestine et lui se firent mille grâces, et je dus séparer le couple et mettre un terme par une nerveuse volée de coups de bâton à cette aventure sentimentale. Si un cœur vraiment mâle avait battu dans la poitrine de cet âne, il serait tombé sur moi à coups de dents et de sabots. Et ce me fut une pensée consolante. Il était tout à fait indigne de l'affection de Modestine. L'incident ne laissa pas cependant de m'attrister comme tout ce qui me rappelait le sexe de ma victime. Il faisait dans la vallée une chaleur torride, sans un souffle d'air, et un soleil violent me cuisait les épaules. Il me fallait jouer du bâton avec une telle ardeur que la sueur me coulait dans les yeux. De plus, toutes les 5 minutes, le paquet, le panier, le pardessus de pilote glissaient d'une manière inquiétante d'un côté ou de l'autre. Et j'étais obligé d'arrêter Modestine, juste au moment où j'étais parvenu à lui faire prendre l'allure convenable d'environ 2 milles à l'heure pour tirer, pousser, épauler et rajuster le chargement. En fin de compte, au village d'Ussel, le bât culbuta et tout le fourniment alla rouler dans la poussière sous le ventre de la bourrique. Au comble de la joie, elle se redressa incontinent et on eût dit, ma parole, qu'elle souriait. Un homme, deux femmes et deux enfants arrivèrent, qui, formant demi-cercle autour de nous, semblèrent l'encourager par leur exemple. J'eus un mal du diable à remettre les choses en place. Comme je venais de finir le paquet, l'ensemble bascula sans aucune hésitation et retomba de l'autre côté. Si j'avais chaud, vous pouvez l'imaginer, et pas une main ne se ferait pour m'aider. L'homme me dit seulement que le paquet était mal fait. Je lui répondis que s'il n'avait rien de mieux à dire pour me tirer d'embarras, il ferait aussi bien de tenir sa langue. Et le drôle voulut bien en convenir en souriant. C'était vraiment une situation des plus pitoyables. Je dus me résigner à ne laisser à Modestine que le paquet principal et me charger personnellement des objets suivants. Une canne, une gourde, un pardessus de pilote dont les poches étaient pleines à crever de 2 livres de pain noir et un panier ouvert rempli de provisions et de bouteilles. Je crois pouvoir dire que je ne suis pas dépourvu de grandeur d'âme, car je n'ai pas reculé devant ce fardeau humiliant. Je l'arrangeais, Dieu sait comme, de façon à le rendre aussi portatif que possible, puis je me mis en devoir de diriger Modestine à travers le village. Elle essaya, suivant son invariable habitude, d'entrer dans chaque maison et dans chaque cour sur toute la longueur de la rue. Encombré comme je l'étais, n'ayant pas une main de libre, mon embarras dépassait toute description. Un prêtre et 6 ou 7 personnes étaient en train d'examiner une église en réparation, et en voyant mon triste état, ils se mirent à rire bruyamment. Je me rappelais avoir ri moi-même devant de braves gens aux prises avec cette forme de l'adversité qu'est une bourrique crétive, et ce souvenir me remplit de repentir. C'était au beau temps de ma jeunesse, avant que me fussent survenus tous ces ennuis. Dieu sait que je ne m'en moquerai plus jamais, pensais-je, mais qu'une farce nous semble cruelle quand elle se joue à nos dépens. Un peu en dehors du village, l'âne possédé du démon se prit d'affection pour un sentier et refusa positivement d'en sortir. Je laissai tomber tous mes paquets, et j'ai honte de le dire, je frappai par 2 fois le pauvre pêcheur sur le crâne. Cela faisait peine de le voir lever la tête, les yeux fermés, dans l'attente du coup suivant. Je fus bien près de pleurer, mais je pris le parti plus sage de m'asseoir tranquillement sur le côté de la route pour examiner la situation sous l'influence consolante du tabac et d'une goutte d'eau-de-vie. Modestine, pendant ce temps, mâchait un peu de pain noir d'un air de contrition hypocrite. Il était évident qu'il me fallait faire un sacrifice au dieu du naufrage. Je jetai la bouteille vide, destinée au lait, ma provision de pain blanc, et sans me soucier d'une juste répartition des pertes, je gardai le pain noir pour Modestine. Enfin, je jetai aussi le gigot froid et le fouet à eux, j'y tenais pourtant comme à la prunelle de mes yeux. Alors je trouvai de la place pour tout dans le panier, et je pus même plier mon paletot sur le dessus. Au moyen d'un bout de corde, je me l'attachai en bandoulière, quoique la corde me coupât l'épaule et que le paletot traînât presque par terre, et je continuai ma route d'un cœur beaucoup plus léger. J'avais maintenant un bras libre pour corriger Modestine, je la châtiais sans pitié. Pour pouvoir arriver au bord du lac avant la nuit, elle devait faire bouger ses petites jambes à vive allure. Déjà le soleil avait disparu derrière un brouillard qui annonçait du vent, et bien qu'il restât encore çà et là quelques traînées d'or au loin, à l'est sur les montagnes et les sapins noirs, tout était froid et gris devant nous dans notre sentier. Une infinité de petits chemins de traverse sillonnaient les champs de tous côtés. C'était vraiment un dédale inextricable. J'apercevais sur les hauteurs le terme de ma course, ou plutôt le pic qui le dominait. Mais tous les chemins que je choisissais ne tardaient pas à s'en détourner, soit pour revenir sournoisement vers la vallée, soit pour contourner au nord le pied des montagnes. La lumière faiblissante, les couleurs qui s'effaçaient, l'aspect désolé, inhospitalier de cette campagne pierreuse à travers laquelle je voyageais, m'avaient jeté dans un morne découragement. Je vous assure que le bâton ne chômait pas. J'estime que chaque pas décent fait par Modestine m'a coûté au moins 2 bons coups. On n'entendait pas d'autre bruit aux alentours que celui de mon incessante bastonnade. Soudain, au milieu de mes efforts, le chargement tomba encore une fois dans la poussière. Comme par enchantement, toutes les cordes se trouvaient en même temps dénouées. La route était jonchée de tous mes chers objets. Le chargement fut à refaire de fond en comble, et comme il me fallut inventer un système plus pratique, je crois pouvoir estimer à une demi-heure le temps que j'y perdis. Le crépuscule tombait lorsque j'atteignis un désert de touffes d'herbes et de roches. On aurait dit une route conduisant partout à la fois, et je me sentais sombrer dans un profond désespoir quand je vis, au milieu des pierres, deux êtres humains qui s'avançaient vers moi. Ils marchaient l'un derrière l'autre, comme des vagabonds, mais leur allure avait quelque chose de singulier. Le fils menait le train. C'était un homme de haute taille, mal bâti, sombre, qui avait une tête d'Écossais. La mère suivait dans ses plus beaux atours du dimanche, avec un ruban élégamment brodé à son bonnet, et par-dessus, un chapeau de feutre tout neuf. Marchant à grandes enjambées dans sa jupe à larges plis, elle proférait toute une litanie de blasphèmes obscènes. J'interpellai le fils et lui demandai ma route. Il m'indiqua vaguement l'ouest et le nord-ouest, murmura quelques mots inintelligibles, et sans ralentir l'allure un seul instant, il passa son chemin. J'eus beau crier, ils continuèrent à gravir le versant de la montagne et à faire la sourde oreille. Enfin j'en fus réduit à planter là Modestine et à courir après eux tout en multipliant mes appels. Ils s'arrêtèrent comme j'approchais, mais la mère continuait à blasphémer. Je pus voir que c'était une belle femme, qui avait l'air d'une respectable matrone. Le fils me répondit de nouveau d'une manière rude et indistincte. Il se disposait à partir, mais pendant ce temps, j'avais saisi le bras de la mère qui se trouvait près de moi. Tout en m'excusant de cette violence, je lui déclarai que je ne les laisserais pas aller tant qu'ils ne m'auraient pas remis dans le bon chemin. Ils ne se fâchèrent point et me parurent plutôt s'adoucir, me disant que je n'avais qu'à les suivre. La mère me demanda alors ce que j'allais faire au lac à pareille heure. Je lui fis une réponse d'Écossais en lui demandant à mon tour si elle allait loin elle-même. Elle me dit, avec un autre juron, qu'elle en avait pour une heure et demie de marche, puis, sans plus de cérémonie, le couple reprit l'ascension de la montagne dans la pénombre du crépuscule. Je rejoignis Modestine, je la fis repartir d'un bon pas, et après une montée escarpée de 20 minutes, j'atteignis le sommet d'un plateau. Derrière moi, le pays que j'avais traversé dans la journée était sauvage et triste. Le mont Mézenc et les pics au-delà de Saint-Julien se découpaient à l'orient sur la froide clarté du ciel. Et les collines qui nous en séparaient étaient comme submergées par une vaste mer d'ombre. Ça et là, le profil en pain de sucre d'une sombre masse boisée, la forme blanche et irrégulière d'une ferme, et des taches noires aux endroits où la Loire, la Gazeille ou la Laussonne erraient au fond d'une gorge. Bientôt j'arrivai sur une grande route et je fus très surpris d'apercevoir un village assez important, tout près de nous, car on m'avait dit que les parages du lac n'étaient habités que par des truites. La route où les enfants ramenaient les troupeaux semblait fumer au crépuscule, et deux femmes, tout endimanchées, à califourchon sur leur cheval, passèrent devant moi au grand trot, revenant du canton où elles étaient allées à l'église et au marché. Je demandai à l'un des enfants où je me trouvais. « Au boucher Saint-Nicolas, me dit-il. » C'était à 1 mille environ au sud de ma destination et sur l'autre versant d'un sommet assez élevé que m'avaient conduit ces routes enchevêtrées et ces paysans trompeurs. Mon épaule était sciée par la corde et me faisait beaucoup souffrir. Mon bras, à force de taper, me donnait des élancements comme ceux d'une rage de dents. Je renonçai au lac et à mon projet de campement et m'enquis d'une auberge.